9h-11h, La Vie en Bleu sur France Bleu Touraine.
La Vie en Bleu sous le soleil, c'est pas du bonheur, ça peut être dans une heure. Dans la cuisine France Bleu Touraine, on parlera du Roi Rose, le fameux porc de Touraine. Jean-Michel Aumont, qui est producteur de porc depuis plus de 30 ans, à Pouzé, nous expliquera pourquoi, selon lui, le porc de Touraine est si bon, si ce n'est quasiment le meilleur cocorico. Ensuite, un petit peu avant, à 9h30, on retrouvera Marie Desroches, on parlera sport, notamment avec Sylvie Bortolotti, qui viendra nous raconter la belle aventure de Génération Danse. Ça se passe à Mont, et c'est du sport, s'il vous plaît. Et puis tout de suite, on va parler ordinateur dans le dossier du jour. Si vous avez un ordinateur à la maison, vous connaissez le stress du « attention, virus et autres programmes malveillants ». Tous les spécialistes le disent, il faut faire les mises à jour de ces logiciels régulièrement, avoir un bon antivirus pour être à peu près tranquille. Mais voici que l'on a découvert deux failles de sécurité dans les processeurs cette fois. Alors, nos ordinateurs sont-ils en danger? On se pose la question dans le dossier du jour France Bleu Touraine. Vos questions et vos réactions, si vous avez des ordinateurs à la maison, quelle que soit la marque d'ailleurs, au 02 47 38 10 20 ou sur le Facebook France Bleu Touraine. David Groux, bonjour.
Bonjour.
Alors, je rappelle que vous êtes directeur technique de FireEye, un spécialiste en sécurité informatique. Alors, on a parlé de ces deux grandes failles de sécurité. Alors, c'est, je ne sais pas si je prononce bien, Meltdown et Spectre.
Oui, c'est pas mal prononcé.
Merci. Les petits noms de ces failles de sécurité, alors, qui concernent non plus les logiciels ou les systèmes d'exploitation, comme Windows ou ceux d'Apple, mais plutôt les processeurs. Donc là, on est dans la mécanique quasiment, nos ordinateurs. C'est grave, docteur ?
Alors c'est grave, oui, c'est assez grave en fait, parce que l'idée c'est qu'on est descendu vraiment à un niveau beaucoup plus bas, qui est le niveau donc des processeurs, donc le niveau physique. Et là on est sur des ennuis, ou en tout cas des soucis de conception carrément. Donc là on commence à rentrer dans le dur.
Alors on peut se poser la question, comment est-ce possible que ces processeurs soient, j'allais dire, presque livrés à tout vent?
Alors, comment c'est possible? Il y a plusieurs raisons qui peuvent l'expliquer. La première raison, c'est qu'à un moment, les constructeurs ou les fondeurs, comme on les appelle, donc ces gens qui font les processeurs, ont dû se poser un certain nombre de questions qui sont est-ce qu'on fait de la performance ou est-ce qu'on fait de la sécurité? Et aujourd'hui, c'est vrai dans tous les métiers, dans tous les objets que vous achetez au quotidien, la plupart du temps, on essaye de rendre le consommateur heureux avant de le rendre secure, comme on appelle ça chez nous. Donc c'est ce qui s'est passé au départ dans cette conception, avec l'idée de se dire, il faut de la performance, il faut qu'on aille vite, il faut qu'on traite du calcul, donc pas obligatoirement de la sécurité en premier, je dirais, focus. Et puis la deuxième chose, c'est les tests, tout simplement. C'est-à-dire que plus on avance dans le temps, plus on a des chercheurs qui cherchent, comme leur métier l'indique, et quand on se met à chercher quelque chose, souvent on arrive à trouver, et c'est ce qui arrive en ce moment sur tout ce qui est plutôt faille matérielle.
Alors, en ce qui concerne ces deux failles, Meltdown et Spectre, tous les microprocesseurs du géant américain Intel, depuis 1995 tout de même, donc même les anciens ordinateurs jusqu'à aujourd'hui, sont concernés, selon Symantec, qui est un grand spécialiste de la sécurité informatique. Mais la faille Spectre a l'air plus importante encore, parce qu'elle ne concerne pas que Intel, elle concerne également tous les autres fabricants de processeurs et de microprocesseurs. Donc là, on se dit, tous les ordinateurs sont susceptibles d'être impactés, y compris ceux d'Apple, parce qu'on dit souvent que ceux d'Apple sont un peu protégés. Mais là, pour le coup, tout le monde est concerné.
Alors, pour le coup, je vais même aller un peu plus loin. Je vais faire un peu dans le sensationnel pour l'instant. Et puis après, on redescendra la pression. On redescendra la pression après. Mais en tout cas, on va aller plus loin que ça. C'est dans tous les types de processeurs. Donc, pas obligatoirement les ordinateurs uniquement. On va parler des processeurs. Aujourd'hui, des processeurs, vous en avez dans tout. Vous en avez dans les voitures. Vous en avez dans les téléphones. Vous en avez dans les... enceintes connectées, les télés et bien d'autres choses. Et en fait, comme on le disait en amont, on est sur un problème de conception. Et la conception de l'ensemble de ces processeurs, quelle que soit leur marque, que ce soit le fondeur que vous avez cité, Intel, ou d'autres comme ARM, AMD, qui sont un petit peu moins connus du grand public, ont tous la même problématique sur cette faille dite de conception. À l'origine, dans la manière dont on a pensé les choses, on a fait cette erreur.
Alors ceux qui nous écoutent et qui ont l'ordinateur sous le nez, par exemple, ou même leur téléphone, peuvent regarder maintenant avec un air un peu suspicieux leur machine en disant, qu'est-ce qui peut m'arriver? Alors, quels sont les risques avec ces deux failles?
Alors, je vais essayer de les expliquer de manière assez simple, parce qu'en fait, un des grands challenges de ce type de faille, c'est qu'on est sur des niveaux techniques qui sont très élevés. Et donc, étant sur des niveaux techniques très élevés, il est assez difficile pour le grand public, voire même pour nous professionnels, d'appréhender exactement le risque de ces failles. Donc, je vais essayer de le faire simple, et j'espère que ça va être compréhensible pour tout le monde. Globalement, les processeurs modernes, comme je le disais tout à l'heure, ont un objectif qui est de faire de la performance. Pour ce faire, on a dans les processeurs ce qu'on appelle le calcul spéculatif. Donc là, je commence à devenir un peu technique, mais oui. Je vais essayer de le schématiser. L'idée, c'est que quand le processeur ne fait rien, eh ben, au lieu de rien faire, comme il est là et qu'il est en train d'attendre, on lui demande de faire des calculs et il fait des calculs au hasard. Pour que si jamais vous lui posiez la question, la réponse est déjà prête et peut-être donnée extrêmement rapidement. Donc c'est un petit peu comme si mon fils à l'école devait apprendre les tables de multiplication et avant même que le professeur lui donne une question sur une des tables, dans sa tête, il est déjà en train de répéter l'ensemble des tables de multiplication le plus rapidement possible.
D'accord.
Le processeur fait la même chose. Si je lui pose une bonne question, il a déjà fait le calcul, il me donne le résultat. Résultat, moi en tant qu'utilisateur ou en tant que programme utilisateur, je suis content parce que ça va vite, ça répond vite, j'ai des bonnes performances. Ce concept-là, qui était un concept de performance, était, d'un point de vue sécurité, fait de telle manière à ce que personne ne puisse accéder à cette base de données de tous ces calculs qui sont faits de manière spéculative. Et ce qu'ont démontré les chercheurs, c'est plusieurs capacités d'aller chercher les résultats de ces calculs, voire d'influencer le côté spéculatif de ces calculs. Et l'idée, en fait, et le risque derrière, c'est que je peux, en tant qu'attaquant, demander au processeur de faire des calculs quelque part en attente que personne ne voit, et de récupérer des informations que je n'aurais pas dû avoir en le poussant à faire des calculs qui m'intéressent ou en allant chercher des informations qui m'intéressent.
Alors, si je vous comprends bien, David Grou, c'est quand même des attaquants, comme vous les appelez, hein, des personnes malveillantes qui ont un niveau technique très élevé quand même.
Alors oui et non. Oui, dans un premier temps, puisqu'en fait, on est quand même sur des preuves de concept, comme on les appelle dans le jargon technique. Donc on démontre le concept de la faille, qui sont extrêmement techniques. Malheureusement ou heureusement, aujourd'hui avec Internet, à partir du moment où on a démontré le concept, l'ensemble du contenu de ce concept est disponible. Donc on a commencé à voir récemment, maintenant, puisque les failles sont arrivées début janvier, et depuis maintenant un peu moins de 3 semaines, 1 mois, on a vu une 150 à peu près preuves de concept exécutées sur le marché, par des attaquants qui commencent à essayer de construire du code autour de ce qui a été programmé ou autour de ce qui a été partagé sur Internet, comment attaquer la faille.
Alors on va voir avec vous dans un instant si on peut se protéger de tout cela. Nos ordinateurs sont-ils en danger? C'est le thème de ce dossier du jour France Bleu Touraine ce matin. Si vous voulez intervenir pour poser vos questions à David Grou et apporter vos réactions, le 02 47 38 10 20 ou le Facebook France Bleu Touraine.
J'arrive à me glisser juste avant que les portes ne se referment. Elle me dit quel étage et sa voix me fait quitter la terre ferme. Alors les chiffres dansent, tout se mélange. Je suis en terre. J'arrive à me glisser juste avant que les portes ne se referment. Que les
pesanteur Calogero sur France Bleu Touraine. Le dossier du jour, France Bleu Touraine, ce matin consacré, je vous le rappelle, à nos ordinateurs. Sont-ils en danger? On a vu qu'il y a des failles assez étonnantes sur les processeurs notamment. Pour répondre à ces questions, David Grou, directeur technique de FireEye, est avec nous. Si vous voulez lui poser une question, le 02 47 38 10 20 vous est ouvert. France Bleu.
Vous l'avez vécu sur France Bleu Touraine.
Ça fait 40 ans que je donne un coup de main quand je peux au carnaval. Quand on parle de maintenant, c'est le carnaval. On ne peut pas laisser tomber ça.
C'est une souffrance interne que tous les agents ont. Ceux qui ramassent les poubelles le matin à 5h30, ils ont vraiment cette sensation d'être considérés comme de la merde.
On est tellement contents, on n'arrête pas de faire des batailles de neige.
C'est les joies de l'hiver. Hein.
France Bleu Touraine, l'info qui nous rapproche. À vos agendas, les métiers d'art font leur salon régional autour du thème Carte Blanche au Parc Expo d'Orléans du 16 au 18 février. Entre création, savoir-faire, exposition et défilé de mode, découvrez nos établissements de formation et plus de 140 artisans d'art. L'entrée est gratuite. Renseignements sur régioncentre-valdeloire.fr.
La région Centre-Val-de-Loire, plus qu'une région, une chance.
9h-11h, c'est La Vie en Bleu sur France Bleu Touraine.
Meldon et Spectre, deux noms, on se croirait dans un James Bond, et pourtant, ce ne sont pas des idées virtuelles, c'est bel et bien deux failles de sécurité qui ont été découvertes début janvier dans les processeurs de nos ordinateurs, et même, on l'a dit il y a quelques instants, dans nos téléphones, tablettes, et tout ce qui comporte d'ailleurs un processeur. Ça est un peu inquiétant, faut bien l'avouer. David Grou, vous êtes directeur technique de FireEye, spécialiste en sécurité informatique, vous vous penchez avec vos équipes sur ce genre de soucis. Est-ce qu'il faut vraiment avoir peur de ça pour le grand public en tout cas?
Alors, avoir peur, non, pas pour le grand public aujourd'hui. Je dirais que pour réduire un petit peu la pression par rapport à la discussion qu'on avait avant, le grand public aujourd'hui se retrouve un peu protégé, sans le vouloir, en tout cas positivement, à travers les mises à jour qui ont été faites par les différents éditeurs. Donc on revient sur ce que vous disiez en introduction, hein, mettre à jour son ordinateur. Je suis déjà venu sur l'antenne quelques fois où on disait... les gens le font sur le téléphone, pourquoi pas sur l'ordinateur? Donc aujourd'hui, il faut vraiment mettre à jour pour réduire la fenêtre de risque. Le risque existe toujours, mais pour le grand public, il y a quand même des choses qui limitent assez grandement le risque.
Ah, par contre, pour les professionnels, je pense aux petites et grandes entreprises d'ailleurs, on l'a vu hein, l'été dernier, de très grandes entreprises comme Saint-Gobain par exemple, ont été impactées par des piratages. Donc même quand on est avec un grand service informatique dédié dans une grande entreprise, on n'est pas à l'abri hein, d'un problème. C'est plutôt eux qui doivent s'inquiéter.
Alors, ils doivent s'inquiéter sur deux choses. Alors, pour revenir sur les exemples que vous citiez, globalement, en fait, pour les grands services informatiques, c'est presque plus compliqué que pour la personne qui est chez elle avec une tablette et un ordinateur. Parce qu'il faut imaginer, quand on a 100 ou 150 000 machines à gérer, qu'on doit traiter des robots dans des usines ou des choses comme ça, on a une telle diversité qu'il est assez compliqué en fait de tout mettre à jour. C'est un peu un casse-tête au quotidien. Pour le grand public, aujourd'hui, il suffit... entre guillemets, de mettre à jour les mises à jour Windows, et déjà, ou Apple d'ailleurs, ou Android pour toutes les cités, et on va déjà réduire de manière assez forte la capacité de l'attaquant sur l'utilisation des failles qu'on a citées, Meldon et Spectre.
Ah, est-ce qu'on peut rêver un jour d'ordinateur ou de téléphone 100% sécurisé?
Alors honnêtement, je pense que non. Je pense qu'aujourd'hui, on peut imaginer, alors, quand je dis non, je vais essayer de corriger un tout petit peu. Tout va dépendre de ce qu'on veut en faire. Aujourd'hui, on est dans un monde de la consommation excessive où on veut extrêmement de fonctionnalités, où on veut que tout soit connecté. Plus on ouvre le champ des possibles, plus on ouvre le champ des risques. Plus on le réduit, et c'est ce que font notamment les gens dans le monde militaire, hein, par exemple, un mobile dans le monde militaire n'a rien à voir avec un mobile grand public, on va réduire le nombre de fonctionnalités. Donc plus on réduit le nombre de fonctionnalités, plus on réduit ce qu'on appelle chez nous les spécialistes la surface de l'attaque. Donc quand on réduit la surface de l'attaque, bon, on peut mieux la maîtriser, et quand elle est très large, ça devient plus compliqué.
Alors, on découvre, on l'a bien compris, régulièrement des failles de sécurité. Est-ce qu'il y a d'autres surprises à venir, à votre avis, ou est-ce qu'on arrive un petit peu au bout?
Non, on est qu'au début en fait. Je pense qu'on est vraiment carrément qu'au début. Pourquoi? Parce que les chercheurs, alors notamment pour les failles que vous avez citées, il y a un groupe de chercheurs qui s'appelle le projet Google Zero, qui est vraiment très présent sur ces sujets-là. Et les chercheurs ont commencé à mettre leur nez dans l'idée d'attaquer les fondations de l'informatique. Donc il y a quelques mois, pour les auditeurs qui connaissent un peu mieux le côté informatique et dans le détail, il y a eu une grande faille annoncée qui s'appelait Crack, qui était une faille sur les réseaux Wi-Fi, qui expliquait qu'en fait, tout ce qu'on pensait être sécurisé depuis des années ne l'était pas. Il y avait eu un peu la même chose il y a maintenant 18 mois, 24 mois en arrière, sur la notion du chiffrement des données sur Internet, donc ce qu'on appelle couramment le TLS pour les spécialistes, mais peu importe, qui de la même manière, on a réussi à démontrer que la fondation mathématique de l'usage était faillible. Et aujourd'hui, bah, comme je le dis souvent, plus on cherche, plus on trouve. Et on a pas mal d'universités et d'universitaires qui cherchent de plus en plus. Alors, à titre d'exemple, hein, avant de venir à l'émission ce matin, j'ai jeté un petit coup d'œil pour faire mes devoirs à la maison. Et il s'avère que cette semaine, un nouveau groupe de chercheurs aux États-Unis a trouvé encore de nouvelles manières d'attaquer la même faille que celle documentée dans Spectre, alors que jusqu'à maintenant, on pensait qu'on avait déjà un peu fini avec cet épisode. Et non, ils viennent de démontrer d'autres manières d'approcher l'attaque, ou en tout cas la faille, pour pouvoir l'attaquer. Donc on est un peu qu'au début de cette discussion, et je pense qu'on en verra d'autres.
Donc on va vraiment regarder notre ordinateur avec un œil méfiant maintenant. Visiblement, vous ne nous rassurez pas beaucoup, Navigo. Justement, les entreprises comme la vôtre, FireEye, les spécialistes en sécurité informatique, s'inquiètent de quoi en ce moment ?
Alors on s'inquiète beaucoup. Alors nous, dans notre domaine, en tout cas chez FireEye, on travaille énormément sur la partie géopolitique. Alors un des exemples que je peux citer, qui est très récent et qui va parler à tout le monde, c'est typiquement les attaques informatiques qui ont eu lieu la semaine passée lors de l'ouverture des JO d'hiver. Ça, c'est vraiment les sujets aujourd'hui d'actualité. L'utilisation de l'outil informatique comme étant un outil de pouvoir géopolitique. On pense clairement, et c'est un des grands sujets du moment, que la partie informatique devient un nouveau champ de bataille. On avait la terre, on avait la mer, on avait l'air. Il y a eu aussi l'espace, avec la course à l'espace dans les années 70-60.
La
guerre des étoiles, comme voilà. On l'appelait. Aujourd'hui, on a basculé ce domaine-là sur le monde informatique, et le monde informatique devient vraiment un enjeu géopolitique majeur. Alors, à titre d'exemple, et pour que nos auditeurs puissent un peu voir tout ça, vous citiez l'exemple des grandes attaques qui ont lieu l'été dernier, dont une qui s'appelait NotPetya. Pour les gens qui ont encore un petit peu en tête celle-ci, c'est celle qui a fait arrêter certains nombres de magasins ou d'usines. Cette attaque-là n'est qu'un effet collatéral de guerre géopolitique entre l'Ukraine et la Russie. Donc je rentrerai pas dans l'ensemble du détail, mais globalement, pour être impacté, il fallait avoir un outil ukrainien. Et malheureusement, il y a eu des dommages collatéraux, comme on les appelle dans le monde un peu militaire classique, qui ont fait que des entreprises françaises ont été touchées, alors qu'elles n'étaient pas du tout visées au départ de l'attaque. On était dans une discussion cyber, comme on l'appelle,
musclée, visiblement,
musclée, entre l'Ukraine et la Russie.
D'accord, bah dites, donc ça ne nous rassure pas vraiment. En revanche, ce qui concerne tout le monde, c'est les voitures. Tout le monde se pose la question, voiture autonome ou pas. On va voir un petit peu si c'est impacté par ces failles de sécurité dans un instant sur France Bleu Touraine.
France Bleu Touraine, à Langeais, sur 105.
I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. But darling, just kiss me slow. Your heart is over. Dreams, I hope that someday I'll share her home.
Ed Sheeran sur France Bleu Touraine. Suite et fin du dossier du jour France Bleu Touraine dans une minute.
Optique 2000, pour moi les meilleurs opticiens. Marcel Fontanet, à Vauche, dans la Loire, nous dit pourquoi.
Il y a un très grand choix de produits, aussi bien vue que solaire. Je veux des lunettes qui soient légères et des verres le plus légers possible. J'ai des progressifs. Alors j'ai entendu dire par beaucoup de personnes, quand on met les progressifs, on manque les marches d'escalier et j'en passe. Moi, du jour où j'ai mis des progressifs, j'ai jamais eu aucun souci. J'ai pas fait de différence. Et ça, je l'apprécie beaucoup.
Jean-François Renvoiret, l'opticien Optique 2000 de M. Fontanet à Vauche.
Notre souhait est de proposer à nos clients un choix de monture conséquent. Et en tant que spécialiste de la presbytie, une sélection de verres progressifs, efficace et confortable. Et Optique 2000 étant partenaire de nombreuses mutuelles, nous nous occupons de tout pour nos clients.
Alors, M. Fontanet, content d'Optique 2000 ?
Très satisfait. Et en plus, il gère tous les papiers pour moi.
Optique 2000, c'est le leader français de l'optique avec 1200 magasins près de chez vous.
Dispositifs médicaux, demandez conseil. Conseillez votre opticien.
Ma fibromyalgie, depuis ma cure thermale à Lamalou, c'est le jour et la nuit, et sans douleur.
À Lamalou-les-Bains, au Languedoc, nous avons 18 jours pour soigner vos rhumatismes, soulager vos douleurs et réduire vos médicaments. 9 mois après leur cure, 90% des curistes interrogés constatent une diminution des douleurs. Chaîne thermale du soleil agit naturellement pour votre santé.
Interrogez votre médecin et appelez au 0800 32 32 32 0800 32 32 32 ou chaînethermale.fr.
France Bleu Touraine, à Richelieu, 92.9.
Le dossier du jour, France Bleu Touraine, avec cette phrase qui fait un petit peu peur, effectivement. Nos ordinateurs sont-ils en danger? On a découvert des failles de sécurité dans la structure même, hein, des processeurs de nos ordinateurs, tablettes, télévisions, enfin bref, partout où il y a un de ces processeurs. Pour répondre à vos questions, David Grou, directeur technique de FireEye, hein, société spécialisée en sécurité informatique, et Jacques Deveuve veut vous poser une question, David. Bonjour Jacques.
Oui, bonjour à toute l'équipe. Voilà, je vous appelle effectivement parce que comme vous parlez de des infections virales, surtout sur le système le plus utilisé au monde, on va dire Windows, et j'utilise personnellement un autre système qui est Linux avec une distribution Ubuntu, et je voulais savoir si les risques encourus chez Windows peuvent être identiques chez Linux, ou à moins que le système porteur, c'est-à-dire Windows, soit lui-même touché par les virus.
Alors, on va poser la question à David Grou.
Oui, bonjour. Alors en fait, je vais vous répondre en deux parties, Jacques. Je vais vous répondre sur la première partie par rapport au sujet du jour. Donc sur le sujet du jour, en fait, les environnements Linux sont touchés de la même manière, puisqu'en fait, la faille, elle, a lieu vraiment sur ce qui est sous-jacent, le processeur, donc pas directement sur ce qu'on appelle l'operating system, donc le système d'opération. Mais plus globalement, par rapport à votre question, oui, les environnements Linux sont aussi touchés par des virus. Maintenant, la réalité statistique, c'est qu'elles le sont moins statistiquement, puisque l'environnement Windows, lui, est beaucoup plus, je dirais, propagé dans le grand public. Donc on voit beaucoup de choses dans le monde Windows, on en parle beaucoup parce que c'est peut-être, alors j'ai pas les derniers chiffres, mais je pense 90% du parc. On parle de plus en plus d'Android, mais le monde Linux ou le monde Mac ne sont pas à l'abri. Il existe aujourd'hui pas mal de variantes de virus qui visent ces systèmes d'opération, et il faut les protéger comme les autres.
Voilà Jacques, pour répondre à votre question, bah, en tout cas bon, Linux est craint moins, hein, donc voilà, donc vous êtes déjà sur une bonne voie Jacques, c'est moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup de nous avoir appelé pour poser cette question à David Grou. Pour terminer, David, une question, parce que beaucoup de gens se posent la question à propos des voitures, les nouvelles voitures avec tous ces ordinateurs embarqués, notamment les voitures autonomes, on parle beaucoup des voitures autonomes. Est-ce que là, ça craint ou pas? Est-ce qu'on peut craindre du piratage de ces voitures ou pas?
Alors, est-ce qu'on peut craindre du piratage? La réponse simple va être oui, on peut craindre. Maintenant, la grande différence par rapport au sujet qu'on a abordé ce matin, on parle là de choses qui ont été conçues dans les années 95-97 sur les processeurs. Aujourd'hui, les voitures, on est en plein dedans avec un niveau, je dirais, d'intérêt à la sécurité informatique qui est beaucoup plus élevé. Donc, les constructeurs automobiles travaillent de plus en plus à créer des incubateurs de start-up pour les aider en fait à protéger l'ensemble de ce qu'ils sont en train de concevoir autour des voitures autonomes. Donc on peut espérer qu'ils le prennent plus en amont dans la réflexion du design. Maintenant, on n'est jamais à l'abri, c'est-à-dire que la sécurité à 100%, elle n'existe pas, elle n'existera jamais, mais on est capable